BPM, élections législatives 2024.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée aux élections législatives 2024 dont le premier tour est prévu dimanche. Nous recevons l'intégralité des candidats de la 8e circonscription et ce matin, je suis en compagnie de Benjamin Lucas, député sortant et candidat pour le nouveau Front Populaire et dont la suppléante est Kenza Sakat. Benjamin Lucas, bonjour.
Bonjour à vous.
Tout d'abord, une question qu'on a posée à tous les candidats. Qu'avez-vous pensé du choix d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale le soir des élections européennes? C'était donc le 9 juin dernier.
Cela paraît si lointain maintenant, après ces quelques jours, parce que c'est très court, de campagne électorale. Le président de la République a pris une décision seul, sans consulter personne. J'ai lu dans la presse que le président du Sénat a estimé qu'il n'avait pas été consulté selon les usages prévus par la Constitution. La présidente de l'Assemblée nationale, qui est de la même famille politique que lui, dit la même chose. Bon, il nous met dans une situation terrible pour le pays, puisque le choix que nous avons à faire ce dimanche et dimanche 7 juillet est un choix qui va... nous engager pour des années, des décennies, c'est peut-être, sans doute, l'élection la plus importante pour notre pays depuis la libération. Donc on en est là, moi j'ai pas très envie de disserter est-ce que c'est bien ou pas bien. Moi je suis un démocrate, donc je me soumets évidemment au suffrage des électrices et des électeurs, c'est pour ça que je me suis porté candidat pour le renouvellement de mon mandat. Mais le timing choisi par le président de la République, avec l'extrême droite plus forte que jamais, interroge évidemment.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter à ces élections législatives? Vous êtes bien sûr le député sortant, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'y retourner?
Bon, d'abord parce que l'heure est grave et que je veux participer à la reconstruction de notre pacte républicain, que je vais être papa au mois de décembre et que je me sens une grande responsabilité pour la transition écologique et la vivabilité, la durabilité de notre planète, mais aussi pour l'état de notre République parce que j'ai la chance de fonder une famille qui est une famille aux origines mélangées, comme il y en a beaucoup, venues des deux côtés de la Méditerranée, et que je ne veux pas que l'extrême droite accède au pouvoir dans notre pays. Et je sais que je suis le mieux placé au regard du travail que j'ai fait pendant deux ans ici, le mieux placé pour battre l'extrême droite dans la 8e circonscription des Yvelines. Et donc ça rejoint la deuxième raison qui est que je considère, et beaucoup me l'ont dit, que nous avons avec ma suppléante bien fait le travail pendant deux ans. J'ai été un bon député, je suis le député qui est le plus intervenu en séance à l'Assemblée nationale, j'ai déposé plus de 10 000 amendements, j'ai écrit ou coécrit près de 75 propositions de loi, donc j'ai fait le job à l'Assemblée nationale, c'était d'abord ma première mission, en m'opposant à la réforme des retraites, en m'opposant à la loi immigration de Monsieur Darmanin, en faisant des propositions pour le droit au départ aux vacances pour les enfants, pour qu'on ouvre des classes supplémentaires, pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, et j'ai aussi été très présent sur le territoire, sur la circonscription, c'est aussi ça le rôle d'un parlementaire, et je crois que c'est assez reconnu par toutes celles et tous ceux qui sont de bonne foi. Donc le mandat était court, deux ans, je suis candidat donc au renouvellement pour finir finalement ce mandat que les électeurs m'avaient confié pour cinq ans, il y a deux ans à peine.
Justement, avant de se tourner vers votre programme, on va en profiter pour faire un bilan un peu plus poussé de ce que vous avez fait. Quels ont été les sujets phares pour vous ces deux dernières années? Qu'est-ce que vous avez vraiment voulu mettre en avant?
Moi, ma boussole, c'était de faire en sorte que liberté, égalité, fraternité, qui est la devise de notre République, se traduise dans la vie quotidienne de chacune et de chacun. Ça veut dire, par exemple, combattre la réforme des retraites, qui est une réforme injuste et inégalitaire, et que nous abrogerons si nous arrivons au pouvoir, mais je suppose qu'on aura l'occasion d'en parler. Ça a été défendre une vision de l'immigration qui n'est pas la vision de l'extrême droite et de la droite radicalisée, qui est une vision accueillante, fraternelle, consciente de la responsabilité humanitaire qui est la nôtre, et consciente aussi que l'immigration dans notre pays, elle rapporte économiquement plus qu'elle ne coûte, que l'immigration dans notre pays, elle est aussi la source d'un enrichissement culturel, et on en est sur cette circonscription l'illustration, qui est extrêmement profitable à la République et à sa construction. J'ai aussi défendu la question éducative. Je crois que c'est la mère de toutes les batailles. L'école aujourd'hui est malade d'un manque d'égalité. Elle est malade du fait qu'on ferme des classes, y compris dans nos quartiers populaires. Qu'on ferme des classes et des écoles dans des territoires ruraux et dans des villages qui pourtant ont besoin de cette proximité scolaire. Donc la question éducative, elle a aussi pour moi été centrale dans ce mandat. Puis j'ai mené plein de batailles. On parlait avec mon collègue Sébastien Peytavi pour la gratuité des fauteuils roulants, pour le remboursement à 100% des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap. Je pourrais parler aussi de mon combat pour le droit aux vacances, qui m'a beaucoup occupé. Et c'est l'idée que chaque enfant de ce pays, quels que soient les revenus de ses parents, quel que soit l'endroit où il vit, puisse quelques jours, quelques semaines par an, voir la mer, découvrir la montagne, un musée, et ainsi prendre confiance en lui, réussir à l'école et puis devenir un citoyen à part entière.
Pour se tourner vers votre programme, on s'est basé sur un sondage qui était sorti le 6 juin, donc juste avant les élections européennes, un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, sur les préoccupations des Français. Sans grande surprise, est arrivé en première position le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous défendez sur ça?
Oui, c'est la mère de toutes les batailles. Et d'ailleurs, je regrette que dans les grands médias de ce pays, les grands médias nationaux, on parle pas beaucoup de pouvoir d'achat ces jours-ci, alors que moi, c'est ce que tout le monde me dit sur le terrain. Partons du constat d'abord. Aujourd'hui, le passage à la caisse du supermarché devient un calvaire pour la plus grande majorité de nos concitoyens. À la fois pour les classes populaires, qui étaient déjà dans la précarité, mais aussi pour tout un tas de gens qui étaient dans ce qu'on appelle la classe moyenne, qui jusqu'à il y a encore quelques années vivaient correctement de leur travail, pouvaient partir un peu en vacances, pouvaient faire des courses et puis de temps en temps faire un peu la fête, organiser un barbecue avec des amis chez eux, qui depuis quelques années, quelques mois, du fait de l'inflation, du fait de la cherté de la vie et du fait de la stagnation des salaires, se trouvent dans une situation où ils se privent et où ils s'interrogent sur leur capacité à pouvoir s'occuper dignement de leurs enfants, de leurs aînés qui vont pas bien, etc., etc. C'est ça la mère de toutes les batailles. Et donc pour ça, il faut redonner du pouvoir d'achat. Comment on redonne du pouvoir d'achat ? D'abord, nous allons, avec la réforme fiscale juste et progressive que nous faisons, en créant 14 tranches d'impôt sur le revenu et non plus 5 comme c'est le cas aujourd'hui, faire peser l'effort sur les ultra-riches, des gens qui gagnent des centaines de milliers d'euros par an, et baisser les impôts de tous ceux qui gagnent moins de 4000 euros par mois. Ça, c'est la première mesure immédiate. Nous allons augmenter le SMIC à 1600 euros net, parce qu'aujourd'hui, on vit pas dignement avec le SMIC tel qu'il est. Augmenter l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, c'est-à-dire ce qui permet à nos compatriotes de survivre dans des situations de grande précarité. Et puis, dernier élément pour rendre du pouvoir d'achat, c'est dernier de ce qui est les urgences et les principales priorités. C'est baisser et bloquer les prix des produits de première nécessité, c'est-à-dire les denrées alimentaires, mais aussi les carburants, parce qu'on a besoin aujourd'hui encore de sa voiture pour aller travailler, pour aller chercher ses enfants à l'école. Et puis les prix de l'énergie, parce que dans les postes de dépenses principaux, on l'a vu l'hiver dernier, il y a l'énergie qui est aujourd'hui à un coût insupportable pour les ménages et pour les entreprises.
Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. Quand on parle de salaire, on parle d'emploi. Quand on parle d'emploi, on pense aussi aux retraites. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ?
Nous sommes le seul bloc politique, je suis le seul candidat dans cette circonscription qui abrogera la réforme des retraites si nous gagnons le 7 juillet. L'extrême droite nous annonce que finalement, après son accord avec Monsieur Ciotti, donc le programme de Monsieur Naut, contrairement à ce qu'il écrit, et de Monsieur Bardella, c'est la retraite à 66 ans, chacun appréciera. Nous allons abroger la réforme des retraites parce que c'est une réforme antisociale. Partir à la retraite plus vieux, c'est avoir plus de souffrance au travail, parce que les dernières années de travail sont les plus pénibles. C'est donc créer des pathologies, c'est mettre des gens dans la difficulté et la souffrance. C'est libérer moins d'emplois pour les jeunes, puisqu'on parle souvent de l'emploi des jeunes. Partir à la retraite plus tard, c'est aussi priver nos associations, nos clubs sportifs de tous ces néo-retraités, c'est-à-dire ces gens qui, à 60, 62 ans, ont encore de l'énergie, ont encore la santé, et donc s'engagent dans la collectivité, s'engagent pour faire vivre leur commune, leur club sportif, leur association caritative, Secours Populaire, Resto du Cœur, etc., qui ne peuvent plus le faire. Et puis, c'est une réforme antidémocratique. Cette réforme, Monsieur Macron n'avait le soutien ni du peuple français, 9 actifs sur 10, tous les sondages l'ont montré, étaient opposés à cette réforme. Il n'avait pas le soutien du Parlement, puisque l'Assemblée n'a jamais eu à voter, il y a eu le 49-3, n'a jamais eu à voter de cette question, et que quand nous avions déposé avec des collègues une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites, le gouvernement, aidé par la présidente de l'Assemblée nationale, a piétiné le règlement de l'Assemblée et la Constitution pour nous empêcher de voter. Et puis, il n'y avait pas le consentement des organisations syndicales. Elles ont été unies pour rejeter cette réforme. Donc, il y a un impératif social et démocratique. Et donc, je vous le dis très clairement, si nous sommes élus le 7 juillet, on composera un gouvernement entre le 8 et le 18 juillet. Et donc, le 18 ou 19 juillet, la première décision prise par ce nouveau gouvernement du nouveau Front Populaire sera d'abroger la réforme des retraites. Et donc, celles et ceux qui auront 62 ans au mois de juillet pourront partir en retraite comme c'était le cas initialement. Puis ensuite, nous travaillerons pour converger vers la retraite à 60 ans le plus rapidement possible.
La seconde préoccupation des Français selon ce sondage, c'est l'immigration qui arrive en deuxième position avec 36% des voix.
C'est le résultat d'un débat public qui est englouti depuis des années sous les contre-vérités et les mensonges sur la réalité des migrations dans notre pays. Les migrations sont globalement stables en France depuis des décennies. L'immigration, je le disais tout à l'heure, je prends l'exemple des étudiants étrangers, les étudiants internationaux rapportent des milliards d'euros, 3 milliards d'euros par an à l'économie française, pour la plupart repartent dans leur pays et font rayonner la France à travers le monde. C'est une fierté, c'est une richesse l'immigration. On est ici sur un territoire où il y a beaucoup de familles qui sont construites par le mélange des origines, des religions, des couleurs de peau et qui forment la République. Et nous sommes dans un moment où l'extrême droite menace notre cohésion républicaine, menace notre pacte républicain et nos valeurs. Et donc je veux dire à toutes celles et tous ceux qui pensent que la France, c'est mieux qu'une identité figée, rabougrie, qui a peur des autres et de l'étranger, que la France, c'est la fraternité, c'est le bonheur de partager ensemble et d'arracher ensemble des conquêtes sociales pour le plus grand nombre. Je dis à tous ceux-là qu'ils ont un bulletin de vote, c'est celui du nouveau Front Populaire.
On va aussi se tourner vers le local.
Oui.
Sur la 8e circonscription, ce qui agite aussi les habitants et ce qui les inquiète, c'est ce projet de maison d'arrêt à Magnanville. Quelle est votre position ?
Moi, depuis 2 ans, je suis de toutes les batailles contre ce projet. Je suis le seul candidat à cette élection législative qui s'est engagé, sans aucune ambiguïté, depuis le départ et totalement contre ce projet. Monsieur Nôte, du Rassemblement National, qui est donc conseiller régional, en fait, il va chercher son chèque à la région tous les mois, mais pendant ce temps-là, il fait rien de son mandat de conseiller régional. Rien du tout, c'est un scandale démocratique. Il ne s'est pas exprimé une seule fois contre ce sujet. Il n'était pas présent à la grande réunion publique organisée à Magnanville par le maire, par les associations pour dénoncer ce projet, alors que nous avons, avec des élus qui sont pas de mon bord politique, appelé à l'union sacrée contre ce projet de prison. Lui était aux abonnés absents. Et le candidat macroniste, j'en parle même pas, c'est ce gouvernement, cette majorité sortante qui nous impose ce projet avec Monsieur Dupond-Moretti. Donc moi je me suis engagé, j'ai interpellé le gouvernement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à 2 reprises. Sur ce sujet, j'ai écrit au ministre de la Justice pour lui demander de venir à Magnanville, rencontrer les habitants, rencontrer les enseignants et les élèves et les parents d'élèves du lycée qui est juste à côté, venir expliquer pourquoi ce choix. Et puis j'ai accompagné nos élus à chaque fois qu'il a fallu mener la bataille avec la préfecture, avec les services de l'État. Et je veux rendre hommage aux élus, aux associations et aux riverains qui ont travaillé à des alternatives, qui ont montré leur crédibilité et qui ont été méprisés. Et donc l'un des enjeux du scrutin de dimanche, c'est aussi de demander le respect pour les habitants, pour les riverains, pour les élus, pour les associations. Et donc c'est une forme de référendum pour ou contre la prison. Plus je fais un score élevé à Magnanville, plus j'aurai de la force ensuite pour aller interpeller le nouveau ministre de la Justice qui sera nommé après les élections pour exiger que ce projet ne voit pas le jour. Et croyez-moi, si je suis dans la majorité, je ferai en sorte que ce projet ne voit pas le jour parce qu'il est un projet anti-environnemental, antisocial, antiscolaire, c'est à côté d'un lycée, qui n'est pas du tout adapté à notre territoire, qui souffre déjà de beaucoup de discrimination.
L'autre sujet local, qui pour le moment agite plus les élus que les habitants, même si ça finira peut-être par arriver, c'est cette fameuse ligne Nouvelle Paris-Normandie.
Moi, je vais vous dire, sur les transports, ma position est claire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on a une offre de transport qui se développe pour le Mantois, sur les 2 rives de la Seine, d'abord, c'est important. L'arrivée d'Éole doit être un progrès pour tous et un progrès partagé. De la même façon, si une ligne Nouvelle Paris-Normandie doit voir le jour, il faut plus de trains qui s'arrêtent à Mantes. Il faut plus de trains directs entre Mantes et Saint-Lazare. Ça me paraît être indispensable. Aujourd'hui, Mantes ne peut pas être reléguée. Le Mantois, parce que Mantes-la-Jolie, la gare de Mantes-la-Jolie est une gare du Mantois qui appartient à tous les habitants du Mantois et du Vexin. Mantes-la-Jolie doit être mieux desservie par les transports en commun. Il faut aussi des transports en commun. J'ai interpellé plusieurs fois la présidente de la région, Valérie Pécresse. C'est pas une compétence du député, mais je suis aussi le porte-voix de ce territoire. Il faut aussi des transports en commun qui soient moins chers. Il faut baisser le prix du pass Navigo, puis qui soient un peu confortables, quoi, quand même. On a le droit aussi au respect. Les vieux trains qui datent d'il y a 20 ou 30 ans, dans lesquels on est mal assis, dans lesquels il fait surtout en ce moment une chaleur insupportable, c'est pas très bon pour les jeunes, pour les personnes âgées. Donc là aussi, on a le droit au respect. Et ce territoire, qui est un territoire d'avenir, qui est un territoire sur lequel des entreprises doivent pouvoir investir, qui est un territoire de rayonnement et de diversité, il doit être beaucoup mieux accompagné en matière de transport public.
Cette émission touche à sa fin. Si vous êtes réélu député, vous resterez cet homme de terrain ?
Bien sûr, j'adore ça. Vous savez, il s'est créé en 2 ans quelque chose de plus fort qu'un rapport entre un élu et ses concitoyens, qu'entre un élu et ses électeurs. J'ai de l'amour pour ce territoire, j'ai de l'affection pour celles et ceux qui le font vivre. Il faudrait 3 heures d'émission pour que je vous raconte les dizaines, les centaines de rencontres que j'ai faites, qui sont incroyables, qui me touchent. Encore le week-end dernier, dans des barbecues, dans des fêtes de village et dans des fêtes de quartier, j'ai échangé avec des centaines de Mantaises, de Mantais, d'habitants du Vexin. Voilà, j'aime ce territoire et je veux m'engager pour qu'il réussisse et puis m'engager pour qu'il soit enfin considéré à Paris.
Benjamin Lucas, merci.
Merci à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette interview sera rediffusée à 13h aujourd'hui. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast élections législatives. À 8h30, nous retrouverons Stéphane Champagne, candidat sans étiquette, qui nous présentera également son programme pour la 8e circonscription des Yvelines. Ne bougez pas, on se retrouve très vite sur BPM.
BPM, élections législatives 2024.